Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de VO Afrique pour votre émission quotidienne à votre avis. Émission quotidienne interactive pour discuter de sujets et d'autres sujets toujours plus intéressants les uns que les autres. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'antenne libre sur l'actualité. Donc, on vous demande, que retenez-vous de l'actualité de la semaine? Quelles nouvelles vous ont le plus marqué dans votre pays ou à l'étranger? Commenter un point particulier de l'actualité nationale, internationale ou locale. Je trouve ça très intéressant. Local, on aimerait bien nous savoir ce qui se passe dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre région. Donnez votre avis sur les sujets qui vous intéressent surtout ou qui vous touchent même personnellement. Politique, santé, société, droits humains, environnement, sport, sciences et technologies, culture, etc. Donc, vous pouvez nous appeler en direct pendant 30 minutes dès maintenant au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. Vous pouvez nous appeler, nous laisser votre numéro de téléphone et on vous rappelle, on a déjà Thierry en ligne à Bujumbura. Mais avant cela, je voudrais citer le propos de l'archiduc Théodore de Kétan Djamena qui dit que ce qui a attiré son attention comme actualité de la semaine, c'est la réaction. On va en parler tout à l'heure finalement. Je vais pas en parler tout de suite, on va prendre Thierry à Bujumbura et archiduc Théodore, on va certainement l'avoir en ligne. Donc Thierry, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir madame, je vais bien. Et vous, comment allez-vous?
Ça va très très bien. Alors vous, ce qui vous a le plus marqué, c'est quelque chose qui s'est passé au Sénégal, n'est-ce pas?
Tout à fait madame. Ici, l'information qui m'a vraiment marqué, c'est celle qui a été diffusée, c'était hier. On a entendu que au Sénégal, les députés ont adopté la loi portant sur le parrainage via la période électorale. Mm-hmm. Donc, j'ai entendu que les opposants sénégalais, ils ont dû protester contre ça. Mm-hmm. Et certains ont manifesté disant que c'est un moyen visant à écarter les autres politiciens. Mais moi, je crois qu'il n'y a rien de mal. Si on exige d'avoir au moins 65 000 personnes pour pouvoir être candidat à une élection, c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aller participer dans une élection en tant que candidat présidentiel sans au moins avoir 65 personnes derrière toi. Donc, en Afrique, nous nous amusons à dresser toute une liste de candidats sans même avoir au moins cinq candidats forts. Et quand je dis candidat fort, je veux dire des candidats qui ont vraiment des électeurs potentiels assez nombreux. Mmh. Et c'est ça qui fait que à la fin du vote, après le vote, nous remarquons qu'il y a des candidats qui ont des résultats très médiocres.
Alors en fait oui, alors vous rejoignez finalement donc le point de vue des autorités qui disent finalement que bon, il faut savoir que au Sénégal on a 299 partis politiques et donc l'objectif serait un petit peu de freiner ce mouvement de nombreux partis politiques finalement dont la plupart n'ont aucune chance d'être élus, mais bon, l'opposition n'est pas d'accord avec cela. Donc merci Thierry d'avoir rappelé donc cette nouvelle fraîche. On a archiduc Théodore donc N'Djamena au Tchad qui lui va parler de son pays en effet et notamment de la réaction de l'épiscopat. On vous écoute archiduc.
Bonsoir la voix de l'Amérique et bonsoir à tout le monde.
On vous écoute.
Pour moi la réaction de l'épiscopat du Tchad par rapport à la 4e République voulue par le président de la République, c'est une bonne chose parce que ce genre de choses, c'est une concertation, une implication directe du peuple tchadien. Le président de la République et Chaban souhaitaient à ce que c'est les députés, les représentants du peuple qui actuellement ne sont pas valides, qui actuellement n'ont pas une bonne idée, qui vont réagir. Mais sauf que ce n'est pas une bonne idée et l'épiscopat l'a ramené au droit chemin. C'est une très bonne action, un bon geste pour faire comprendre au président de la République que l'avenir d'un pays, c'est d'abord un peuple. Un jour, le président de la République va partir, lui, en tant qu'individu, va quitter le pays, mais le peuple demeure toujours fort et le peuple, c'est son territoire. Le peuple ne peut en aucun cas quitter collectivement. C'est un geste que tous les hommes religieux du Tchad devraient amputer le pas pour que réussir soit fait, pour que le peuple tchadien ne soit pas négligé lors de prise de décision, parce que c'est une décision qui, d'abord, va affecter le peuple. C'est le peuple qui est premièrement concerné et on ne peut pas faire ce genre de décision en excluant le peuple, puisque la force d'un pays, c'est d'abord le peuple.
Alors, en effet, Archiduc Théodore, c'est une question intéressante. Hein. Il faut dire que donc cette révision de la constitution tchadienne prévoit un régime présidentiel intégral, hein, ce qui devrait renforcer les pouvoirs du président Idriss Déby Itno. Et comme vous l'avez dit, les évêques tchadiens ont appelé hier à une adoption par référendum de la nouvelle constitution plutôt que par voie parlementaire. Ils disent que selon la constitution elle-même, la révision de la Constitution est adoptée par référendum et l'adoption du nouveau texte donc prévoit un régime présidentiel et c'est prévu donc fin avril, hein, cette adoption notamment. Et la grande majorité des députés sont pro-pouvoir, hein, comme dans la plupart des parlements, hein, c'est assez classique, surtout en Afrique. Et donc la société civile a demandé aux députés de ne pas voter cette nouvelle Constitution, 10 ans notamment, que leur mandat a pris fin en 2015. Donc ils pensent qu'ils sont illégitimes, selon donc le militant Mahamat Nour Ibedou. Et donc jusqu'ici, on a à peu près 33 députés sur 170 qui vont boycotter les travaux. Et donc Monsieur Déby, on est à son 5e mandat. Et si la nouvelle constitution est adoptée, il pourra se représenter en 2021 et pourrait même effectuer 2 autres mandats de 6 ans. Donc voilà pourquoi un petit peu il y a certains troubles, aussi troubles au Tchad en ce moment. On a un autre auditeur en ligne. Allô. C'est Yao Marcelin qui est à Abidjan.
Allô, bonsoir madame et bonsoir à tous les deux de la Afrique.
Bonsoir. Alors vous retenez comme actualité de la semaine le sommet militaire Afrique-États-Unis au Nigeria du 16 avril, c'est oui. Cela?
Oui, tout à fait madame. Parce que moi j'approuve toujours les sommets ou les rencontres visant à vraiment à lutter contre le terrorisme. Parce que l'Afrique est vraiment sous la menace de mouvements terroristes. Donc c'est tout à fait normal que ce genre de sommet-là soit régulier en Afrique. Donc je salue vraiment l'initiative des États-Unis, de la franche collaboration aussi de la République fédérale du Nigeria. Bon, vu cela, nous attendons un peu un appui militaire du côté des États-Unis. Un appui militaire aussi, surtout la formation aussi. Un appui militaire et au niveau de la formation aussi. Voilà, parce que nos armées africaines ne sont pas outillées au terrorisme dont elle fait face actuellement. Voilà, c'est un terrorisme de grande envergure. Donc on a besoin d'un soutien militaire des États-Unis et bien d'autres pays encore qui souhaiteraient nous apporter une aide.
Marcelin, je peux vous demander quel est le type d'actualité que vous préférez d'une manière générale? Est-ce que ce sont les questions militaires, justement, les questions de santé, les questions politiques, les questions de sport, de droits humains? Quel domaine vous préférez d'une manière générale?
D'abord, en premier lieu, les questions militaires d'abord. Mm-hmm. Les questions militaires, parce que le terrorisme, on a besoin de sécurité en Afrique. D'abord, les questions militaires, ensuite les questions politiques. Parce mm-hmm. que l'Afrique aussi a besoin de démocratie. La démocratie est totalement absente en Afrique. Pratiquement tous les pays africains ont un problème de démocratie. Donc, c'est tout à fait normal. Les questions militaires et les questions politiques aussi. Bon, la bonne gouvernance ou autre, ça c'est les questions économiques, viennent en second plan. Bon, je voudrais rebondir aussi sur la situation politique en Côte d'Ivoire avec la déclaration du président de l'Union. Bon, juste un peu de vue, parce que bon, la l'alliance entre RDR, donc l'alliance RDP, franchement, c'est une alliance qui... Parce que connaissant l'allié...
On vous entend très mal, on vous entend très très mal. Je ne sais pas si vous êtes à l'extérieur, s'il y a du vent ou quoi que ce soit. On peut vous reprendre éventuellement après, je peux peut-être parler brièvement donc du sujet que vous avez abordé. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, hein. Vous êtes arrêté sur cette question-là, hein. Donc en Côte d'Ivoire, après la signature d'un accord politique en vue de la création du parti donc unifié RHDP, Henri Conan Bédier a reçu d'ailleurs Jeune Afrique pour clarifier sa position. Ça, c'est les dernières nouvelles et tenter donc d'éteindre le feu hein, qui couve dans son parti, le PDCI. Alors, c'est depuis la diffusion le 16 avril d'un accord politique pour la création du parti unifié quelques jours plus tôt par des représentants donc des partis du RHDP. Donc, voilà, la formation sera-t-elle amenée à disparaître en fusionnant dans un ensemble commun nommé RHDP? C'est la question que beaucoup se posent. Je ne sais pas si on a encore Yaou Marcelin qui voulait dire quelque chose là-dessus brièvement. Non.
Oui, Charlie. Voilà. Je préférerais que en 2020, chaque parti politique vraiment présente un candidat, parce que cette alliance, ça ne tiendra pas, madame. Parce que je connais ici en Côte d'Ivoire, parce que le RDR n'est pas prêt à vraiment à passer le relais au PDCI. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre là-dessus. Il ne faudrait pas qu'on se fasse beaucoup d'illusions là-dessus, parce que le RDR ne cédera pas. Donc, je préférerais qu'en 2020, au premier tour, les six partis politiques formant le RDP, chacun présente un candidat. Même si on peut se retrouver 10 candidats au premier tour, ça ne gêne pas. Que chaque candidat, que chaque parti politique présente son candidat, et au second tour, on verra après que si le jeu de l'alliance soit joué ou pas. Parce que cette alliance-là, moi, je n'y crois pas. Le RDR ne cédera pas. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Yaou Marcelin, pour votre point de vue sur cette question, effectivement, qui fait beaucoup couler d'encre en Côte d'Ivoire. On a un autre auditeur en ligne. Jechouroun Abdoulaye, je pense. Non, c'est pas du tout ça. C'est Zéphirin Zico en République démocratique du Congo. Est-ce que vous m'entendez, Zéphirin?
Oui, madame, je vous entends. Bonsoir, tous les auditeurs de La Voix d'Amérique.
Bonsoir à vous. Alors vous voulez parler de l'interpellation de hauts dirigeants du football congolais, une nouvelle qui fait beaucoup parler aussi, hein. On vous écoute.
Oui, nous, peuple congolais, nous sommes déçus de la manière dont fonctionne notre justice. Nous sommes très désolés parce que le football congolais commence à être maillé par la corruption. Et cette corruption-là commence en équipe nationale, mais aussi dans tous les clubs. Maintenant, en République démocratique du Congo, le football n'a plus une actualité qui anime le peuple congolais. Alors que, 2-3 ans maintenant, le football incitait l'adhésion de tout un peuple. Mais par le fait que nos dirigeants, en commençant par le président, son président, qui est Kota Omari, qui est un président doté de la corruption, dont la corruption gangrène et la FECOFA et toutes les structures des sports, mais aussi le ministère, on ne comprend pas. Ces hauts dirigeants ont été interpellés à notre désolation. Nous voulions les voir être jugés et voir clair sur le football congolais, mais malheureusement, tous ces gens-là sont mis en liberté provisoire. Ce qui met la désolation dans les chefs de tous les peuples congolais. Voilà comment fonctionne la justice congolaise et le football congolais. Voilà comment il marche.
Un grand merci, Zéphirin, pour votre participation. Revenez plus souvent participer à nos émissions. C'était un plaisir de vous entendre. On a un autre auditeur en ligne. C'est Hassan qui est en ligne. Bonsoir, comment ça va?
Ça va très bien. Bonsoir à tous les auditeurs. Moi, je vais aujourd'hui parler de la relation entre la Corée du Nord et les États-Unis. Mm-hmm. La rencontre entre le chef de la CIA et le président de Corée du Nord. Donc, ce qui m'a impressionné, c'est que ces deux pays-là, tout le monde disait qu'il y aura guerre entre eux. Et du coup, on entend, après la déclaration de Trump, que monsieur le chef de la CIA a rencontré monsieur
le dirigeant nord-coréen.
Voilà, du Corée du Nord. Donc ça montre que la politique peut changer et qu'on peut espérer du positif dans tous les pays qui a des guerres où il y a une confrontation, soit directe ou indirecte. Mm-hmm. C'est à féliciter. J'espère qu'il y aura des belles choses qui vont s'en sortir et qu'il y aura de plus de sûreté, des rassurances pour les autres pays du monde. Mm-hmm. Et secondo, je voulais parler d'actualité nationale. Et je vous ai aujourd'hui donné comme nommé la capitale culturelle mondiale du tourisme et de la culture en 2018.
Félicitations.
C'est une bonne nouvelle pour. Merci pour toutes les Jouissiens. Félicitations. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut accueillir avec enthousiasme et fierté. J'appelle à tous les auditeurs de la VOE de venir à Djibouti et de voir notre beau pays, surtout les journalistes et techniciens de la VOE.
Merci beaucoup, c'est formidable. Hein, vous avez annoncé finalement de belles nouvelles et c'est ce qu'on attend de votre part, chers auditeurs, chères auditrices. Hein, c'est que vous nous disiez un petit peu ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse. Et pas seulement au plan national, mais au plan régional, au plan local, je vais dire au plan très local, ce qui se passe juste à côté de chez vous. On a Youssouf Ouedraogo qui est en ligne à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Bonsoir Youssouf.
Oui, bonsoir Nathalie, aux auditeurs, à toute la rédaction de VOA et merci pour l'opportunité que cette grande radio nous offre.
On vous écoute.
Alors, il faut dire Nathalie qu'il est vrai que l'actualité de cette semaine pour moi reste beaucoup dominée par l'adoption à l'Assemblée nationale sénégalaise du controversé projet de loi portant, n'est-ce pas, sur le parrainage des candidats, mais j'ai été particulièrement touché par l'ouverture cette semaine à Dakar au Sénégal de la conférence panafricaine sur le paludisme pour faire le point, dit-on, sur la lutte contre cette maladie-là. Mmh. Alors, dans la mesure où les infrastructures sanitaires manifestent encore d'énormes difficultés à se conformer aux principes des slogans de lutte, à la question de savoir si les dirigeants africains font assez pour la lutte contre le paludisme, moi je pense que la réponse est évidemment non. Alors, le seul fait marquant dans nos pays, et ce n'est un secret pour personne, hein, c'est la prolifération des pharmacies qui poussent comme des champignons, comme des boutiques, alors même que les conditions de prise en charge des malades dans les hôpitaux publics ne connaissent aucune amélioration significative au-delà de la corruption qui y règne en maître. Alors, quand vous ajoutez à tout cela le phénomène des médicaments dits contrefaits ou de la rue, donc non conventionnels, vous comprendrez ou vous convenez avec nous que ce n'est pas la distribution, bien que salutaire, des moustiquaires imprégnés qui sont l'œuvre, rappelons-le, de dons extérieurs, qui feront le miracle de l'éradication de cette maladie-là que nous souhaitons tous. Personnellement, le paludisme est une maladie que moi, mon corps ne connaît pas, mais des gens en meurent chaque jour et c'est vraiment terrible d'assister à ça.
Merci beaucoup Youssouf Ouedraogo donc pour ce sujet, finalement sujet d'actualité, santé, droits humains, développement, et Youssouf visiblement vient de dire qu'il est immunisé contre le paludisme. Alors peut-être que nos chercheurs pourraient étudier des gens comme Youssouf justement pour savoir qu'est-ce qui fait que Youssouf résiste au paludisme. Voilà, c'est une proposition que je peux faire au passage. On a un autre auditeur en ligne, c'est Alphonse Mbouaki, qui est en République démocratique du Congo. Alphonse, comment ça va?
Ça va, Nathalie.
On vous écoute.
Je vais intervenir sur la question de santé, parce que elle a dominé cette semaine suite à la conférence qui a été tenue à Dakar sur le paludisme. Hein. Dans mon pays, je vous dis, Nathalie, je pense que la ligne est bonne, hein, à l'arrêt du Congo, pour éradiquer le paludisme. Je vous ai dit, c'est une équation terrible, parce qu'il y a une insalubrité impossible dans mon pays, à Kinshasa, la capitale de mon pays. Les gens vivent sous les immondices. Les gens vivent à côté des immondices, avec les immondices. Donc la responsabilité de l'insalubrité qui provoque des moustiques qui inoculent, des piqûres qui tuent les enfants de moins de 5 ans, beaucoup plus, et les adultes, La responsabilité du référendum est partagée par l'État et puis la population. L'État n'a pas une politique adéquate pour pouvoir assainir son environnement. Il n'a pas de moyens. Les moyens sont de faux pour pouvoir embellir l'environnement. Il n'y a pas de décharge publique où les gens peuvent aller jeter des immondices. On voit les immondices partout. Alors, ensuite, c'est là, la population jette les ordures même sur le caniveau, à côté, là où ils vivent. C'est ce qui provoque une forte malaria. Je vous dis que si vous venez de ce soir, donc, qu'allez-vous de vivre à cause de l'insalubrité terrible. D'ailleurs, on reproche au gouverneur de Kinshasa de ne pas être compétent, capable de pouvoir mettre les moyens enfin de pouvoir combattre, lutter contre le paludisme qui tue terriblement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Alphonse, merci beaucoup Alphonse pour le choix de votre sujet qui rejoint finalement celui de Youssouf. Hein. Vous avez commencé par parler de cette conférence sur le paludisme et donc d'exprimer votre point de vue sur cette question. On a Mamadou Traoré en ligne au Mali.
Oui, bonsoir madame.
Bonsoir, comment allez-vous?
Je vais très bien.
Alors on vous écoute.
Bien, bon, moi j'intervenais sur le cas de l'intervention de la France au Mali. En réalité, cette semaine sur les réseaux sociaux, nous avons vu plusieurs images montrant que la France a une préoccupation qui n'est pas seulement de sécuriser le Mali, mais aussi d'exploiter les ressources minières. Donc la question que je me pose, est-ce que réellement ces informations sont-elles fondées? Si oui, alors la France a échoué sur tous les plans, vu que son but c'est de sécuriser le Mali contre le terrorisme. Et non pour exploiter les ressources minières en nous volant. Donc, j'attire l'attention de la communauté internationale réellement de vérifier si toutefois ces informations sont fondées.
Merci beaucoup, Mamadou Traoré, le binguiste donc, au Mali. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? On a Bakary Keïta en ligne.
Oh, bonsoir.
Bonsoir, Bakary, on vous écoute.
Oh, ouais. Bon, l'actualité quand même qui m'a marqué, ça, c'est sur le plan du football. C'est surtout la qualification du Djoliba pour la phase des poules. Est-ce que vous voyez? Alors que ça faisait très très longtemps qu'une équipe malienne ne se qualifiait pas. Et aussi le Mali à 4 places. Donc si le Djoliba ne se qualifiait pas, il y avait forte chance que la CAF nous retire 2 places. Donc on va dire bravo vraiment au Djoliba et à tout le public sportif malien. Et d'autre part aussi, je salue quand même l'intervention au Sénégal, c'est-à-dire des leaders spirituels. Parce qu'ils ont demandé à Macky vraiment de sursoir vraiment à son projet. Ça aussi, ce sont ces deux événements quand même qui m'ont beaucoup marqué.
Merci beaucoup, Bakary Keïta, pour ces nouvelles positives et sportives. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? On a Youssouf Ouédraogo. Allô, allô?
Oui.
Youssouf.
Oui.
On vous a eu tout à l'heure, il me semble.
Tout à fait.
On vous a eu tout à l'heure. Vous pouvez rester avec nous en ligne. Je voudrais bien lire les propos de Jechouroun Abdoulaye, que l'on n'a pas pu avoir, qui est en Côte d'Ivoire. Il est à Daoukro. Et il dit chez nous, c'est le tollé provoqué par l'accord entre le président Ouattara et Henri Conan Bédié, bien au point que ce dernier a tenu un point de presse chez lui à Daoukro pour apporter des précisions. Donc un autre auditeur nous en a parlé tout à l'heure. Et Jechouroun Abdoulaye, il parle au niveau international du flou, dit-il, qui entoure l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Et il parle de la restitution de la Légion d'honneur par le président Assad, le président syrien, à la France, et l'attaque du camp de la MINUSMA au Mali. Et Ken Youmé, lui aussi, a parlé de l'insécurité dans son pays. Comme avant-hier, dit-il, un jeune commerçant a été tué à Kati. Les autorités ont fait des recherches pour capturer au moins 7 personnes dans cette attaque, dit-il. Chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.